Chapitre 3. Les insectes du miroir. Bien sûr, la première des choses à faire était d'embrasser du regard le paysage qu'elle s'apprêtait à traverser. C'est exactement comme d'apprendre la géographie, pensa Alice, comme elle se mettait sur la pointe des pieds dans l'espoir de voir un peu plus loin. Principale rivière ? Il n'y en a pas. Principaux reliefs ? Je suis sur le seul relief, mais je ne pense pas qu'il ait véritablement un nom. Principale ville ? Mais qu'est-ce que c'est que ces créatures qui butinent là-bas ? Ça ne peut pas être des abeilles. Personne ne peut voir des abeilles à un mile de distance, voyez-vous. Et pendant un moment, elle demeura silencieuse, à observer l'une d'entre elles qui s'agitait parmi les fleurs, enfouissant sa trompe à l'intérieur, exactement comme une abeille normale, songea Alice. Toutefois, ce n'était pas du tout une abeille normale. En fait, il s'agissait d'un éléphant, comme Alice s'en rendit compte sans tarder, bien que cette idée lui coupa un peu le souffle au premier abord. « Comme les fleurs doivent être énormes !» fut l'idée qui lui vint ensuite. « Grosses comme des cottages, mais sans le toit, et avec des tiges. Et quelle énorme quantité de miel ils doivent produire! Je pense que je vais descendre pour... »« Non, en fait je ne vais pas descendre, » dit-elle en s'arrêtant alors qu'elle commençait à dévaler la pente de la colline, et elle essaya de se trouver une excuse pour justifier cette brutale couardise. « Ce ne serait pas avisé de descendre parmi eux sans avoir une bonne grosse branche pour les repousser. Et comme ce serait amusant quand ils me demanderont si j'ai aimé ma promenade, je dirais « Oh, je l'ai bien apprécié !» Et ici, elle fit son petit mouvement favori de la tête. « Bien qu'il y ait beaucoup de poussière et de soleil, et que les éléphants aient été très taquins. »« Je pense que j'irai de l'autre côté, » dit-elle après une pause. « Et peut-être que je rendrai visite aux éléphants plus tard. En plus, je veux absolument aller à la case 3. » Et alors, forte de cette excuse, elle dévala la colline et sauta par-dessus le premier des 6 petits ruisseaux. « Ticket, s'il vous plaît !» dit le contrôleur en passant sa tête par la portière. En un moment, tout le monde sortit un ticket. Il faisait à peu près la même taille que les gens et encombrait totalement le wagon. « Eh bien alors, montre ton ticket, petite fille !» continua le contrôleur en regardant Alice avec colère. Et une multitude de voix dirent à l'unisson « Comme des cœurs dans une chanson, pensa Alice. Ne le faites pas attendre, petite fille. Enfin, son temps vaut 1000 livres par minute.
Je crains de ne pas en avoir, dit Alice d'un ton effrayé. Il n'y avait pas de guichet pour vendre les tickets là d'où je viens.
Et à nouveau le chorus de voix s'éleva.
Il n'y avait pas de place libre là d'où elle vient. La terre là-bas vaut 1000 livres par pouce carré.
N'inventez pas d'excuses, dit le contrôleur. Vous auriez dû acheter un ticket au chauffeur. »
Et une fois de plus, le chorus de voix reprit.
« L'homme qui conduit la machine, eh bien, sa seule fumée vaut 1000 livres la bouffée. »
Alice se dit. « Il est parfaitement inutile de parler. » Les voix ne s'élevèrent pas, puisqu'elle n'avait pas parlé, mais à sa grande surprise, elles se mirent toutes à penser en cœur. J'espère que vous comprenez ce que veut dire « penser en cœur », car je dois avouer que moi, non.
Autant se taire carrément. Le langage coûte 1000 livres par mot.
Je vais rêver de 1000 livres cette nuit, ça ne va pas manquer, pensa Alice. Pendant tout ce temps, le contrôleur l'observait, tout d'abord à travers un télescope, puis à travers un microscope, et enfin à travers des jumelles d'opéra. À la fin, il dit «
Tu voyages dans la mauvaise direction !»
Et il ferma la portière et s'en alla.
Une enfant si jeune, dit le gentleman qui était assis en face d'elle et qui était vêtu de papier blanc, devrait savoir dans quelle direction elle va, même si elle n'est pas capable de retenir son nom.
Un bouc, qui était assis à côté du gentleman en blanc, ferma les yeux et dit à haute voix.
Elle devrait connaître la direction du guichet pour acheter les tickets, même si elle ne connaît pas son alphabet.
Il y avait un scarabée assis à côté du bouc. C'était un drôle de wagon plein de passagers hétéroclites, et il semblait que la règle voulût qu'ils prennent tous la parole tour à tour, et ainsi c'est lui qui continua.
« Elle va être renvoyée comme un bagage !»
Alice ne pouvait voir qui était assis à côté du scarabée, mais une voix chevaleresque parla ensuite.
« Je me propose de me sacrifier pour changer de moteur, » dit la voix, avant de s'arrêter net.
« On dirait une voix de cheval, » pensa Alice. Et une toute petite voix, proche de son oreille, dit
« Vous pourriez faire un jeu de mots sur ça, quelque chose à propos de cheval et chevaleresque, vous voyez ?»
Puis une voix très douce, assez lointaine, dit « Voyez-vous, on devrait lui mettre une étiquette avec marqué « Petite fille fragile ». » Et après cela, d'autres voix s'en mêlèrent. « Quelle quantité de gens il y a dans le wagon ?» pensa Alice. « Pour dire « Elle doit être acheminée par la poste puisqu'elle est timbrée. » »«
Elle doit être envoyée comme un télégramme. » »«
Elle doit tirer le train elle-même pour le restant du voyage. » Et ainsi de suite. Mais le gentleman vêtu de papier blanc se pencha en avant et murmura à son oreille.
« Ne prenez pas garde à ce qu'ils disent tous, ma chère, mais prenez un ticket retour à chaque fois que le train s'arrête. »«
Cela m'est vraiment impossible, » dit Alice, plutôt impatientée. « Je ne fais pas du tout partie de ce voyage en train. J'étais dans un bois à l'instant et j'aimerais y être à nouveau. »«
Vous pourriez faire un jeu de mots là-dessus, » dit la petite voix près de son oreille. « Quelque chose à propos d'être dans un bois de hêtre, vous voyez ?»
« Arrêtez de m'ennuyer, » dit Alice, qui regardait en vain pour repérer d'où venait la voix. « Si vous avez tellement envie qu'un jeu de mots soit fait, pourquoi ne le faites-vous pas vous-même » La petite voix poussa un profond soupir. Elle était manifestement très malheureuse, et Alice aurait bien dit quelque chose de compatissant pour la réconforter. « Si seulement cette chose pouvait soupirer comme les autres gens, » pensa-t-elle. Mais c'était un soupir si extraordinairement léger qu'elle ne l'aurait pas entendu du tout s'il n'avait pas été poussé très près de son oreille. Et la conséquence en était que cela chatouillait tellement son oreille que cela détournait ses pensées du malheur de cette pauvre petite créature.
« Je sais que vous êtes une amie, » dit la petite voix, « une bonne amie et une vieille amie, et vous ne me ferez aucun mal, bien que je sois un insecte. »«
Quel genre d'insecte ?» demanda Alice un peu anxieuse. Ce qu'elle voulait réellement savoir, c'était si cet insecte pouvait la piquer ou non, mais elle pensait que ce ne serait pas une question très polie.
« Comment ? Ainsi, vous ne... »
commença la petite voix. Mais elle fut aussitôt noyée dans un cri strident du moteur, et tout le monde, y compris Alice, sauta sur ses pieds en panique. Le cheval, qui avait passé sa tête par la fenêtre, la rentra calmement et dit
« C'est seulement un ruisseau que nous devons sauter. »
Tout le monde parut soulagé. Bien qu'Alice se sentît un peu nerveuse à l'idée de train effectuant des sauts. « Quoi qu'il en soit, cela nous mènera à la case 4, et ceci est réconfortant, » se dit-elle. Un moment après, elle sentit le wagon s'élever dans les airs, et dans sa frayeur, elle attrapa la chose qui se trouvait la plus proche de sa main, et cette chose se trouva être la barbe du bouc. Mais la barbe sembla se dissoudre tandis qu'elle la touchait, et elle se retrouva tranquillement assise sous un arbre, tandis que le moucheron, car c'était lui, l'insecte à qui elle était en train de parler, se balançait sur une brindille juste au-dessus de sa tête et l'éventait avec ses ailes. Il s'agissait, certainement, d'un très gros moucheron. « À peu près de la taille d'un poulet ?» pensa Alice. Pourtant, elle n'arrivait pas à s'en inquiéter après avoir bavardé si longtemps avec lui.
« Ainsi, vous n'aimez pas tous les insectes ?»
poursuivit le moucheron, aussi tranquillement que si rien n'était arrivé. « Je les aime quand ils savent parler, » dit Alice. « Aucun d'eux ne sait parler là d'où je viens. »«
Et quelle sorte d'insecte adorez-vous là d'où vous venez ?»
demanda le moucheron.
« Je n'adore pas du tout les insectes, » expliqua Alice, « parce que j'ai plutôt peur d'eux, tout au moins des gros, mais je peux vous dire le nom de certains d'entre eux. »«
Bien sûr, ils répondent à leur nom, »
remarqua le moucheron négligemment.
« Pas à ma connaissance. »«
À quoi leur sert-il d'avoir des noms ?»
dit le moucheron,
« s'ils n'y répondent pas. »
« Cela ne sert à rien pour eux, » dit Alice, « mais c'est utile pour les gens qui les nomment, je pense. Si ça ne l'était pas, pourquoi les choses auraient-elles des noms ?»«
Je ne sais pas, » dit le moucheron. « Plus loin, dans le bois là-bas en bas, les choses n'ont pas de nom. Enfin, allez-y avec votre liste d'insectes, vous perdez du temps. » »«
Eh bien, il y a le temps, qu'on appelle aussi « mouche des chevaux », commença Alice, commençant à compter les noms sur ses doigts.
« D'accord, »
dit le moucheron.
« Mouche des chevaux. À mi-chemin entre ici et ce buisson, vous trouverez une mouche des chevaux à bascule, si vous regardez attentivement. Elle est entièrement faite de bois et se déplace en se balançant de branche en branche. »«
De quoi se nourrit-elle ? » demanda Alice très curieuse.
« De sève et de sciure, » dit le moucheron. « Continuez donc cette liste. »
Alice regarda la mouche des chevaux à bascule avec beaucoup d'intérêt et en vint à penser qu'on venait juste de la repeindre car elle semblait brillante et visqueuse. Puis elle continua. « Ensuite, il y a la mante religieuse.
« Regardez sur la branche au-dessus de votre tête, » dit le moucheron, « et là, vous trouverez une mante religieuse au chocolat. Son corps est fait de choux, ses ailes de crème pâtissière et sa tête est nappée de chocolat.
« Et de quoi se nourrit-elle ?
« De blé et de tarte écrasée. » répondit le moucheron. « et elle fait son nid dans les couvents.
Et puis, il y a le papillon, continua Alice, après avoir pris le temps d'observer l'insecte dont la tête dégoulinait de chocolat, et s'être dit « Je me demande si c'est pour ça que les insectes tournent toujours autour du chocolat, parce qu'ils veulent se transformer en mantes religieuses au chocolat. »
« Juste à vos pieds, » dit le moucheron.
Alice retira ses pieds, un peu inquiète.
« Vous pouvez observer un papy et mamillon. Ses ailes sont en laine, son corps est gris et il porte des lunettes.
Et de quoi se nourrit-il ?
De thé, pas trop infusé, avec beaucoup de crème. »
Un nouveau problème se posa à Alice. « Et s'il n'en trouve pas ? » suggéra-t-elle.
« Il meurt, évidemment. »
« Mais cela doit arriver très souvent, » remarqua Alice après réflexion.
« Cela arrive sans cesse, » dit le moucheron.
Après cela, Alice resta silencieuse pendant une ou deux minutes à méditer. Le moucheron s'amusait pendant ce temps à bourdonner tout autour de sa tête. À la fin, il se posa à nouveau et remarqua.
« Je suppose que vous n'avez pas envie de perdre votre nom. »«
Non, en effet, » dit Alice un peu inquiète.
« Et pourtant je ne sais pas, imaginez un peu comme ça serait pratique de rentrer à la maison sans votre nom. Par exemple, si la gouvernante voulait vous appeler pour vos leçons, elle devrait crier « Venez ici !» et ensuite elle serait obligée de partir parce qu'elle ne pourrait trouver aucun nom. Et bien sûr, de ce fait, vous ne seriez pas obligée de la suivre, voyez-vous »
« Cela ne marcherait pas du tout, j'en suis sûre, » dit Alice. « La gouvernante n'accepterait jamais une telle excuse pour me dispenser de mes leçons. Si elle ne pouvait se souvenir de mon nom, elle m'appellerait « jeune fille », comme le font les domestiques.
« Bien, et si elle disait « jeune fille », sans rien ajouter d'autre, » remarqua le moucheron, « vous pourriez dire « je file ». C'est un jeu de mots. Je regrette que ce ne soit pas vous qui l'ayez fait.
« Pourquoi regrettez-vous que ce ne soit pas moi ?» dit Alice. « C'est un jeu de mots effroyable. » Mais le moucheron se contenta de soupirer profondément, tandis que deux grosses larmes roulaient sur ses joues.
« Vous ne devriez pas faire de plaisanterie, » dit Alice, « si cela vous rend si triste. »
Il poussa alors un autre de ses petits soupirs mélancoliques, et cette fois le pauvre moucheron parut vraiment avoir rendu le dernier soupir, car quand Alice regarda en haut, il n'y avait plus rien sur la brindille, et comme elle commençait à frissonner à force de rester ainsi immobile, elle se leva et se mit en route. Elle arriva bientôt à un champ, en face duquel se trouvait un bois, qui paraissait beaucoup plus sombre que le dernier, et Alice se sentit un peu anxieuse à l'idée d'y pénétrer. Toutefois, après y avoir réfléchi, elle se décida à y aller. « Car je ne vais certainement pas retourner en arrière, » pensa-t-elle, puisque c'était là le seul chemin pour se rendre à la case 8.
« Ce doit être le fameux bois, » se raisonna-t-elle, « où les choses n'ont pas de nom. Je me demande ce qu'il adviendra de mon nom quand j'y entrerai. Je n'aimerais pas du tout perdre mon nom, parce qu'alors il devrait m'en donner un autre, qui serait sûrement très laid. Mais alors il serait amusant d'essayer de trouver la créature qui a récupéré mon ancien nom. » Comme dans les affiches, vous savez, quand les gens perdent les chiens. Il répond au nom de Dash et porte un collier en laiton. Imaginez d'appeler Alice toutes les choses que vous rencontrez, jusqu'à ce que l'une d'elles réponde. Oui, mais elles ne répondraient pas du tout si elles avaient 2 grammes de jugeote. Elle divaguait ainsi, quand elle atteignit le bois qui semblait très frais et ombragé. Eh bien, au moins c'est une consolation, dit-elle, en allant sous le couvert des arbres, après avoir eu si chaud, d'entrer sous les...
Sous les quoi ? Continua-t-elle, plutôt surprise de ne pas arriver à se souvenir du mot.
« Je veux dire d'entrer sous
ça, voyez-vous, » dit-elle en posant sa main sur le tronc d'un arbre.
« Mais comment est-ce que ça s'appelle ? Je me le demande. Je pense qu'en fait ça n'a pas de nom.
C'est sûr, ça n'en a pas. » Elle resta silencieuse une minute à réfléchir, puis elle recommença soudain à parler.
« Alors, c'est vraiment arrivé en fin de compte ? Et alors qui suis-je ? Je m'en souviendrai si j'en suis capable. Je suis déterminée à m'en souvenir. »
Mais sa détermination ne l'aidait pas beaucoup, et tout ce qu'elle put dire après s'être creusé longtemps la cervelle fut
« Je sais que ça commence par un L. »
À cet instant, un faon passa près d'elle. Il regarda Alice avec ses grands yeux doux, sans paraître le moins du monde effrayé.
« Viens là, viens là !» dit Alice,
et elle essaya de le caresser, mais il fit un petit mouvement de recul, puis recommença à la regarder.
« Comment t'appelles-tu ? » demanda enfin le faon.
Quelle douce voix il avait !«
J'aimerais bien le savoir, » pensa la pauvre Alice. Elle répondit assez tristement. « Je ne m'appelle pas pour le moment. »« Réfléchis encore, » dit-il. « Cette réponse ne convient pas. »
Alice réfléchit, mais rien de bon n'en sortit.
« S'il vous plaît, auriez-vous la bonté de me dire comment vous vous appelez ? » demanda-t-elle timidement. « Je pense que ça pourrait m'aider un peu.
« Je te le dirai si on s'éloigne un peu, » dit le faon. « Ici, je ne peux pas me souvenir. »
Et ils marchèrent donc, ensemble, à travers le bois, Alice tenant amoureusement le doux faon par le cou, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un autre champ, et là, le faon fit un bond soudain dans les airs et se libéra de l'étreinte d'Alice.
« Je suis un faon !» cria-t-il d'une voix qui jubilait. « Et bonté divine, vous êtes une enfant humaine !»
Une frayeur soudaine se fit jour dans ses beaux yeux bruns, et en un instant, il avait filé à toute allure. Alice resta là, à le chercher des yeux, presque prête à pleurer, tant la perte soudaine de son petit compagnon de voyage l'avait contrariée.
« Enfin, du moins je connais mon nom maintenant, » dit-elle. « C'est un peu rassurant. Alice, Alice,
je ne l'oublierai pas de sitôt. Et maintenant je me demande lequel de ces deux panneaux je devrais suivre. » Ce n'était pas une question très difficile, car il n'y avait qu'une route à travers bois, et les deux panneaux pointaient vers elle.
« Je prendrai une décision, se dit Alice, quand il y aura une bifurcation et que les panneaux pointeront dans deux directions différentes. » Mais cela ne semblait pas devoir se produire. Elle continua encore et encore, pendant un long moment, mais à chaque fois qu'il y avait une bifurcation, il y avait toujours les deux panneaux qui indiquaient la même direction, l'un portant l'inscription « Vers la maison de Tweedledum » et l'autre « Vers la maison de Tweedledee ».«
Ce que je crois, » dit Alice enfin, « c'est qu'ils vivent dans la même maison. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas compris plus tôt. Mais je ne pourrai pas rester longtemps. Je passerai juste pour dire « Comment allez-vous ?» et je leur demanderai comment on sort de ce bois. Si je pouvais seulement arriver à la case 8 avant qu'il fasse nuit. »
Et ainsi elle poursuivit sa route, tout en se parlant à elle-même, jusqu'à ce que, au détour d'un virage serré, elle tombe sur deux gros petits hommes, si soudainement qu'elle ne put s'empêcher de sursauter et d'avoir un mouvement de recul. Mais l'instant d'après, elle se ressaisit, certaine qu'il devait s'agir de Tweedledum et Tweedledee.